Est-ce que vous connaissez la série Dawson, Ali Badou ?
Pas vraiment, c'est un souvenir lointain.
Alors, c'est une série américaine des années 90, avec des adolescents traversés par des problèmes existentiels, dont pas mal de problèmes hormonaux, à vrai dire. Et Laura Felpin est fan de cette série. Au cours de cette conversation, nous ferons donc lecture d'une scène de la série Dawson, et ça donne ça.
Où tu vas ?
Chez moi.
Bah, tu restes pas ?
Non.
Pourquoi tu passes pas la nuit ?
Pas ce soir.
Pourquoi ?
C'est comme ça, tu sais, je découche de moins en moins maintenant.
Bah, c'est samedi soir, tu dors ici sans problème depuis l'âge de 7 ans.
Les choses changent, Dawson. Elles évoluent.
Mais de quoi est-ce que tu parles ?
Dormir dans le même lit, c'est bien quand on est petit, pas quand on a 15 ans.
Ouais ?
On entre au lycée lundi.
Mm-hmm.
J'ai de la poitrine.
Quoi ?
Une échappée avec Laura Felpin, c'est Totémique. Jusqu'à la prochaine heure. Elle a posé un personnage qui est déjà culte, celui d'Annick dans la série Le Flambeau. Annick et ses sarouels, Annick et ses cheveux pas très nets, Annick et sa pratique du didgeridoo. Cet hiver, Laura Felpin jouait et chantait la liberté autant que le vague à l'âme dans la comédie musicale Jolie Jolie. Ce printemps, elle est à l'affiche de Bref 2, de Banger sur Netflix et de L'amour c'est surcoté, bonne comédie romantique qui actualise copieusement les codes du genre en salle mercredi prochain. Au milieu de cette actualité foisonnante, Laura Felpin a révélé être atteinte d'un cancer de la thyroïde. Nous nous sommes rencontrés quelques jours avant cette déclaration publique. Il n'en sera pas question au cours de cette conversation. Juste le plaisir du jeu, son amour pour Dalida et cette phrase de Christian Bobin, auteur qu'elle aime. Si on se met tous à sourire, on va tous devenir américains. Laura Felpin m'a reçu chez elle, entre sa BD Tech et son chat qui ronfle.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous avez grandi où, vous ?
À Mulhouse. À Mulhouse.
Pourquoi vous riez ?
J'ai compris en arrivant à Paris que Mulhouse, c'était pas trop stylé. Moi, je trouvais ça super stylé. Et tout le monde m'a dit « Mulhouse ». Moi, j'ai toujours adoré Mulhouse, quoi. Et j'adore encore Mulhouse. C'est Alex Lutz qui disait ça sur Mulhouse. Il disait que c'est une sorte de promesse oubliée. Parce qu'en fait, Mulhouse, c'est une ville qui a été très industrialisée, avec Peugeot, avec plein de grandes usines à une époque. Et puis après, il s'est plus rien passé d'un coup. Et on s'est retrouvé avec tous ces grands centres commerciaux, tous ces grands trucs qui étaient un peu déserts. Donc, il y a une espèce de... C'est un peu une ville fantôme, comme ça. Puis frontalière avec la Suisse, donc il y a beaucoup d'argent, pas très loin, et en même temps, très peu d'un autre côté, quoi. Donc c'est un vrai grand mélange. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, sans du tout le vivre comme ça, mais après coup, que ça avait été une richesse pour moi, parce que j'avais à la fois des potes qui étaient issus d'une lignée d'Aristo, et en même temps, j'étais à Mulhouse, quoi. Donc j'étais aussi dans un endroit où il y avait eu plein d'immigration, des Bosniaques, beaucoup d'Algériens, de Marocains, d'Asiatiques. Enfin, il y avait vraiment une diversité énorme.
Vous avez perdu l'accent ?
Oui.
Vous avez travaillé la perte de l'accent alsacien ou pas ?
Non, je ne l'avais pas tant.
Et est-ce que vous le jouez avec plaisir ?
Ah oui. Je vous parlais d'Alex Lutz tout à l'heure, qui est alsacien aussi. Parfois, on a un jeu qui est génial. On fait semblant qu'on est des grands... comment on appelle ça ? Des grands managers... mais qui parlons que alsacien. Et du coup, parfois, on s'envoie juste une note vocale où on se dit « Yo, écoute, j'ai encore bouffé hier avec les Chinois, on va voir la semaine prochaine, si on peut. » Et en fait, on se fait des... Est-ce que vous voulez que je vous vois si j'en ai un de lui ?
Ah oui !
Je suis sûre que si j'ai un message d'Alex Lutz, on doit en trouver. C'est dans ma messagerie, je pense.
Laura, salut, t'as quoi sur la propos ? Je vois que tu es sur le coup. Je sais qu'autant, j'ai quand même réservé juste en amont le PMC. Je voulais quand même qu'on se fasse pas avoir sur tes dates où il y a, je sais pas quoi, une bar mitzvah ou quelque chose qui se met là-bas quand nous on arrive avec toute la compagnie, quoi. Donc, moi, je réserve de toute façon de ce côté-là. Je la laisse au stand-by. Et de ton côté, effectivement, tu regardes. Voilà, quoi. Et déjà, si tu le reçois, le devis, parce que pour le moment, moi, j'ai pas la couleur. Hein. Voilà. Je t'embrasse.
Ça n'a aucun sens. C'est juste des petites notes comme ça. Donc oui, je pense que j'ai un plaisir immense à le faire et je pense qu'il l'a aussi beaucoup, d'ailleurs.
Parmi les personnages que Laura Felpin a interprétés dans son seul en scène, intitulé « Ça passe », il y a un personnage avec l'accent alsacien. Il y a aussi un moniteur de rafting, une vendeuse de cosmétiques et une femme d'un certain âge qui envoie des textos. Ce personnage-là est inspiré de sa propre mère. Je serais presque tentée de dire de beaucoup de mères. Celle qui tape à un doigt et découpe les mots à haute voix tout en les écrivant.
T'es pas vu au cours de céramique semaine passée, ait effectué première cuisson sur bol tibétain, reste plus qu'à émailler. Émailler. Ben non, pas enculé, enfin. Oh, correcteur. Émailler. Voilà. Allez hop, sand. Bon. Oh, dis, elle me stresse, l'autre. Ah non, tiens, c'est Pascal Flantier sur Messenger. Moi, qu'est-ce qu'il me veut, l'autre nouille? Je vais pas parler depuis 10 ans, au moins. Chère Christine, je suis bloquée au Mali avec la fièvre jaune. Merde! Peux-tu m'envoyer 30 000 francs au CFA? Par mandat cash ou par PayPal? Merde!
Vous avez besoin d'aimer les personnages que vous interprétez?
Oui.
Vous êtes arrivé de les détester?
Je n'ai pas forcément une tendresse équivalente pour chacun d'entre eux, mais en tout cas, oui, je les aime, j'aime les faire. Sinon, et j'ai quand même une tendresse pour eux, oui. Je dois dire que sinon, je ne le fais pas, en général. Même quand... J'ai fait une vidéo une fois avec une espèce de bourgeoise comme ça qui parle de son personnel de maison avec un peu de distance et tout. Bah, par exemple, elle, je sais que je la fais bien parce que je vois très bien le genre de nana que c'est. Puis ça me venait de ma grand-mère qui disait tout le temps, en grande bourgeoise, qu'elle donnait des trucs à la femme de ménage comme si c'était vraiment une mine d'or, quoi. Alors qu'elle lui filait, genre, je sais pas, une radio et que c'était un truc un peu fou. Il y avait cette espèce de condescendance un peu bourgeoise que je connais aussi chez moi. Mais je suis plus gênée de les faire. C'est moins. Moins dans la tendresse par rapport à ces personnages-là, donc je ne les fais pas vraiment, quoi.
Quand soudain... Arrive ici Dalida, interprète du tube que Laura Felpin a choisi pour Totemix ce matin.
Coquille de mou, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi. Gigi.
Je veux donc parler de...
C'est toi là-bas dans le noir ?
Gigi l'amoroso.
Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures ? Tu pleures, Gigi ? Ça n'a pas été là-bas, hein ? Et alors ? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein ? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano ? Et invece non, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini, et tu es napolitain. Écoute.
Vous faites un playback,
oui,
sur cette chanson tu à la fin de votre seul en scène.
Je fais un moment du seul en scène où Gigi revient dans le village.
Attends.
Et c'était vraiment mon moment quand j'étais petite.
Sandro est là aussi.
Le climax de ma sœur joue avec moi. Elle faisait la riche américaine. Elle passait devant moi. Je me mettais en scène et tout.
Ici, tu
es et c'était le climax de mon interprétation.
Ici, tu es le roi.
C'est le premier souvenir de jeu.
C'était même le premier souvenir de mise en scène, parce que ma sœur devait rentrer, et mon père, on habitait dans un appart qui avait des carreaux comme ça un peu au sol, et ma sœur avait un nombre de carreaux définis à marcher avant de faire son entrée pour faire la riche américaine qui passait juste, et qui était la raison pour laquelle Gigi s'en allait du village. J'ai toujours joué, quoi. Après, je me disais pas du tout que je voulais faire ça. Ça, je l'ai compris en faisant énormément de mimétisme de tout ce que je voyais. Donc, j'allais chez le dentiste. Je pensais vraiment que j'allais avoir une carrière de dentiste, quoi. Ça, c'était... Et donc, après, j'ai un peu compris que non, je voulais pas être avocate, fleuriste, dentiste. Qu'en fait, je voulais probablement jouer tout ça, quoi.
Est-ce que vous vous laissez facilement diriger?
Oh, pas trop, non. Si, en fait, je sais pas. Je peux pas vraiment encore bien répondre à cette question. J'ai quand même la sensation d'avoir des convictions qui parfois sont inébranlables et je me dis, t'inquiète, tu me dis ça, mais t'inquiète, je sais ce que je suis en train de faire. Mais ça, c'est un truc que j'ai envie de travailler parce que J'ai cette super envie d'être un peu plus malléable sur des idées que les réalisateurs ou que les metteurs en scène ou les metteuses en scène vont me proposer. Mais je suis pas sûre d'être la plus facile à diriger. Ça, mais même dans la vie de manière générale. Hein. Je suis pas sûre. Mais je me souhaite un peu de lâcher prise quand même, parce que sinon ça va être compliqué cette histoire. Enfin, au début, le premier film que j'ai fait avec François Damien, c'est et William Legbill avec Cécilia Rouault.
Qui s'intitulait Les Complices.
Exactement, j'ai appris mais par cœur le scénario. Mais comme une plaidoirie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je savais, quelqu'un ne connaissait pas son texte, et puis je disais, ah non, mais là, tu dis ça. Puis après, je me suis dit, oh, la faillotte, quoi. Enfin, faut que je me calme et tout. Donc maintenant, je me suis calmée avec l'apprentissage.
Comment ça s'est passé, ce premier tournage? C'était pas la première fois avec une caméra, parce que vous aviez l'expérience de la caméra télé dans Quotidien, où vous faisiez des chroniques hebdomadaires et puis quotidiennes ensuite.
Alors, ça va que je m'étais vue, en effet, à la télé plusieurs fois. Je m'étais bien vue, en plus en faisant des personnages, souvent on est un peu comme ça, très expressif et tout, mais je me rappelle qu'au combo, je me disais, ah, mais c'est donc à ça que je ressemble pour les gens. Je me disais, c'est donc ça que je suis. Et il y avait un peu ce truc de, je trouvais ça un peu violent, parce que je me trouvais un peu, me trouvais pas comme j'imaginais que j'étais.
Et vous vous imaginiez, enfin, qu'est-ce que vous imaginiez, quoi?
Je sais pas. Je pense que je me crois toujours plus gracieuse que je ne le suis. Enfin, quand je me vois, je me dis, ah, bah, donc voilà, t'es là, t'es vraiment, tu sais, je suis un poteau, quoi. Enfin, j'arrive, je suis là, je suis tag. Par exemple, je me dis pas du tout que je peux avoir l'air dur ou un peu, ou que j'en vois, quoi, un peu.
Mais on vous l'a dit, on vous l'a déjà dit, ça? T'en vois ou t'es un peu dur ou...
En fait, j'ai compris que les réalisateurs ou les gens qui me mettaient en scène très vite, ce qu'ils voulaient rechercher chez moi à un moment donné, c'était quand même la souplesse du truc, parce qu'ils voyaient que j'étais capable d'envoyer, mais ils voulaient un peu d'intimité, un peu de tendresse et tout. Et ça m'était impossible à l'époque, vraiment. Maintenant, plus. Mais avant, au tout début, de laisser ça jaillir de moi, je pense que c'était même contre-intuitif, quoi. Enfin, c'était un truc que je pensais que j'étais tendre, après je me voyais, je faisais « Ah oui, d'accord. » C'est comme ça que j'ai dit que je t'aimais, très bien. Je vais revoir les bases. Mais parce que j'ai été vraiment fatalement élevée comme ça, et que moi, quand on dit je t'aime, on dit je t'aime, et il n'y a pas d'effusion, hein, on ne prend pas dans les bras, c'est comme ça, quoi.
Je t'aime.
Ouais, c'est je t'aime. C'est je t'aime si derrière, il y a eu peut-être un AVC, un vague truc de ça va peut-être pas bien se passer, faut peut-être le dire avant que ça se termine, mais c'est pas du tout un mardi gratos, hein. Pas du tout, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu... Et c'est marrant parce que c'est tout ce que je recherche dans la vie, c'est-à-dire que j'ai des relations avec les gens qui sont quand même plutôt très tendres, mais c'est souvent ce que j'exige de l'autre, mais c'est pas forcément ce que je propose le mieux, quoi.
Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Bah, moi non plus.
Ça, c'est un extrait de L'amour, c'est surcoté, comédie romantique moderne réalisée par Mourad Winter et en salle mercredi prochain. Hakim Jemili, que vous venez d'entendre, joue Anis et Laura Felpin est Madeleine. Comment ces deux-là, plutôt, finiront par se retrouver, malgré sa famille à nul autre pareil à elle, malgré ses maladresses à lui et sa bande de potes qui compte l'excellent Benjamin Tranier. Extrait de la bande-annonce de L'amour, c'est surcoté.
Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où?
Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres.
Putain, mais t'es sérieux, là, Guy Georges?
Quoi?
De garder les yeux ouverts pour m'embrasser?
On les a ouverts en même temps.
J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa.
Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague.
Bim!
Vous pensez que je suis amoureux?
Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux.
Je te jure, je me sens bizarre de vous.
Profites-en, frère.
Vous, les jeunes, vous rencontrez sur Tinder.
Du quoi, papa?
C'est les sites de rencontre à ZB, là. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux.
On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux. J'arrête. Bonne nuit.
Cette comédie, elle a un ton vraiment particulier. Comment vous le définiriez, ce ton?
Moi, j'ai toujours l'impression que c'est un groupe WhatsApp sur lequel il aurait pas fallu tomber. Et c'est trop délicieux de se voir ce qui se raconte entre eux, en fait, ces mecs. Il y a une sorte de nos limites dans le ton de Mourad, et c'est étrange comme ça me dérange pas. En fait, c'est 15 gars qui ont traîné sur des bancs trop longtemps, ils se sont fait trop chier, du coup, ils palabrent, ils font des blagues tout le temps. C'est vraiment la naissance du stand-up, en fait, pour moi, ce truc-là. C'est sans limite, quoi. Je sais pas comment le dire.
Provocateur, drôle.
Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Provocateur. Ouais. Provocateur, et en même temps, il y a quelque chose qui me touche là-dedans parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces mecs, j'ai l'impression de les connaître. Par exemple, ce garçon qui a une histoire d'amour, il est issu de l'immigration, ses parents sont arabes. Ça fait partie de son histoire et c'est juste l'histoire d'un gars qui a une histoire d'amour, quoi. C'est juste que nous, ben...
Mais c'est pas le sujet qu'il soit...
Exactement. Mais du coup, c'est chouette, parce que c'est pas le sujet. Et que pourtant, ben, à un moment donné, on est dans un enterrement, un rite musulman, qu'à un moment donné, on va manger là-bas et on mange pas de la choucroute, et qu'on n'est pas en train de dire non plus, bah regarde, on est chez Mohamed, on mange du couscous. Il y a vraiment un truc de, c'est là. Et c'est vraiment la vie, je pense, de tellement de gens en France, quoi. Donc c'est... Ça, c'était chouette aussi, je trouve, vraiment.
Ils sont cinq et se font appeler Biche. Le code, c'est le titre de ce morceau.
Je ne vois pas plus que ce que le code me donne. Des formats carrés, la vraie vie en polygone. Mais il me reste bien quelques souvenirs d'enfance pour lesquels je n'accorde plus d'importance. Les lignes et les numéros qui se confondent me parlent d'amour et de guerre. Sur l'écran s'affiche le monde que le code semble avoir écrit. J'ai bien compris, j'ai mis du sens dans ma recherche. Et je ne crois pas plus que ce que le code me donne. Vois pas plus que ce que le code me donne. Les lignes et les numéros qui se confondent me parlent d'amour et de guerre. Le monde que le code semble avoir écrit de travers.
Totémique aujourd'hui, c'est un micro posé chez la comédienne Laura Felpin.
J'aimerais qu'on écoute la voix que vous avez choisie.
Ouais.
Vous avez choisi plusieurs voix puisque c'est d'abord une série que vous avez choisie.
Ouais.
C'est la série Dawson.
Ah, oui.
De la fin des années 90, enfin, qu'on a découverte en France à la fin des années 90, ouais. Début des années 2000. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dawson, c'est la vie d'un adolescent américain.
Ouais. De 42 ans. Parce que cette personne gère ses problèmes comme s'il avait 42 ans. Et c'était donc cet adolescent de 17 ans.
Alors, on va écouter un extrait.
Ouais, je suis trop contente que vous ayez un extrait de Dawson.
On va écouter un extrait en anglais et j'ai le texte en français. Donc, pour resituer, c'est la scène d'ouverture du premier épisode de la saison 1, donc tout premier épisode, quoi, où Dawson et Joey, son ami d'enfance, sont tous les deux sur son lit à lui. Et elle décide de partir, Joey, parce que ils ont 15 ans et qu'on ne fait plus les mêmes choses à 15 ans que quand on en a 7.
Où are you going?
Oh.
Spend the night.
Il y a Joey Potter, je l'entends.
Not tonight.
Why not?
I just don't think it's a good idea for me to sleep over anymore, you know?
No, I don't know. Why? You've been sleeping over since you were 7. It's Saturday night.
Things change, Dawson. Evolve.
What are you talking about?
Sleeping in the same bed was fine when we were kids, but we're 15 now.
Yeah?
We start high school Monday?
Yeah.
And I have breasts.
What?
And you have genitalia.
I've always had genitalia.
But there's more of it.
Eh oui, c'était le grand moment.
How do you know?
Long fingers. I gotta go.
Whoa, Joe, don't hit and run. Come on. Explain yourself.
I just think our emerging hormones are destined to alter our relationship, and I'm trying to limit the fallout.
Your emerging hormones aren't developing a thing for me, are they?
Bah, j'aimerais qu'on le fasse.
Ah bah super.
Bon, moi, je vais l'annoncer. Vous faites Dawson et je fais Joey, d'accord?
Allez, c'est parti. Où tu vas?
Chez moi.
Bah, tu restes pas?
Non.
Pourquoi tu passes pas la nuit?
Pas ce soir.
Pourquoi?
C'est comme ça, tu sais, je découche de moins en moins maintenant.
Bah, c'est samedi soir, tu dors ici sans problème depuis l'âge de 7 ans.
Les choses changent, Dawson. Elles évoluent.
Mais de quoi est-ce que tu parles?
Dormir dans le même lit, c'est bien quand on est petit, pas quand on a 15 ans.
Ouais?
On entre au lycée lundi.
Mm-hmm.
J'ai de la poitrine.
Quoi?
Et tu as des organes génitaux.
Ah oui, mais ça, j'en ai toujours eu. Hein.
Pas aussi développé.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Tu as les doigts longs.
Salut. Non, Joey, t'auras pas comme ça, explique-toi.
Je crois que nos hormones sont en ébullition et ça peut mal se terminer si on fait pas attention.
Mais dis-moi, tes hormones, elles seraient pas un peu amoureuses de moi? C'est génial.
Fin de l'épisode.
C'est trop drôle parce qu'aucun adolescent n'a conscience de dire « J'ai plein d'hormones, il faut vraiment que je rentre chez moi, il est trop tard. » C'était incroyable, mais ils avaient une manière de gérer les... J'ai été folle de cette série. Hein. Et alors, je sais pas si vous le saviez, mais... j'écrivais les scripts, je les écoutais en français et c'était mes premières double pages, je les réécrivais, tous les dialogues.
Ah non, je l'ignorais.
C'est vrai?
Mais oui.
Ah ben voilà, donc je faisais ça, c'est exactement ce que vous avez fait là. C'est-à-dire que j'écoutais en français, bien sûr je pouvais pas traduire en anglais à cette époque, mais j'entendais en français et je réécrivais sur des copies doubles avec mes stylos qui sentaient la framboise, tous les dialogues de Dawson.
Mais pourquoi?
Mais je sais pas, j'étais obsessionnelle. J'apprenais par cœur et je me rappelle de m'être pris une tarte un jour par mon père. Et Dieu sait qu'elles sont rares. Et c'est un truc qui est resté vraiment dans notre famille parce que je lui disais, mais je peux pas ce soir, j'ai Dawson et tout. Il me dit, tu arrêtes avec ça. Et je lui dis, mais Dawson, c'est ma vie. Et il a pas supporté, je me rappelle. J'adorais parler, j'adorais discuter, j'adorais réfléchir, philosopher et tout. Enfin, à mon niveau, quoi. Et eux, ils faisaient que ça. C'est-à-dire, ils pouvaient pas juste se dire « j'ai mal pris un truc, si j'ai mal pris un truc, parce que là, je suis dans mes âges, les hormones, elles sont pas bien, je suis pas alignée avec moi-même. » Il y avait un truc qui devait me parler et qui devait un peu faire appel à la tragédienne que j'étais, parce que tout était un problème grave, quand même, dans Dawson, vraiment. Mais du père qui meurt dans l'accident de voiture à Joey qui a des seins, quoi. C'est toujours la même grille d'urgence. Donc ça, j'adorais.
Et vous avez fait du doublage. Vous avez commencé le jeu par ça.
Ouais.
Et je crois même que vous avez fait une école de doublage.
Et donc, en fait, pour faire du doublage, il faut, comme pour faire du théâtre, être un plutôt bon comédien, quoi. Ou en tout cas, être comédien, avoir cette formation-là. Et c'est ce qui m'a poussée, d'ailleurs, après, à aller jouer, parce que c'est ça qui m'a emmenée à me dire, bah, en fait, ce que j'aime, c'est jouer, même si j'avoue que j'ai une affection particulière au doublage et que j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps pour un rôle et que j'ai dit à la directrice artistique... Mais tu m'appelles quand tu veux, mais pas pour faire un truc de Laura Felpin qui double quelqu'un. Pour rien, j'adore faire ça, quoi. C'est vraiment ma passion, quoi. Et donc, la première fois que j'ai fait du doublage, en plus, il s'avère que c'était la voix de Dawson, en France.
Mais ça veut dire que la voix est particulièrement importante pour vous. Parce que choisir d'entrer dans le jeu par le doublage comme ça, c'est ça que ça raconte, quand même.
C'est ce que je préfère, je crois. J'adore la voix parce que je trouve que la radio, même par exemple, parce que je trouve qu'elle elle convoque l'imaginaire mieux que. Enfin, c'est plus fort que tout pour moi, quoi. C'est-à-dire que je m'imagine tellement de choses quand j'écoute la radio et ça me fait tellement travailler dans ma tête. Je m'imagine des trucs que, par exemple, un jour, Ali Rebéi, que j'ai rencontré entre temps, dans un café à côté de Radio France, en fait, je vois un mec et puis je l'entends parler, je comprends que c'est Ali Rebéi. Et moi, ça fait. Mais. 10 ans que je crois qu'Ali Rebéi. C'est un petit monsieur avec des cheveux blancs, une petite polaire à manches courtes. Pour moi, il a minimum 60 ans. Pardon Ali, je t'adore. Mais il a ce truc, ou un peu, et donc je me dis, bon, enfin, c'est pas possible que ce soit Ali Rebéi, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour dire que ça construit des trucs tellement forts, la voix, pour moi, que c'est extraordinaire, et ça peut tout faire passer, quoi. Et après, c'est un autre exercice encore d'être à l'image et de travailler sa voix en même temps qu'on nous voit.
Vous le faites, ça?
C'est un point de départ quand j'ai un personnage, en effet. Là, j'ai fait un truc, par exemple, dans un film avec son nom, Arthur Sanigou, Un stupéfiant Noël, où je fais une présentatrice américaine avec mon co-auteur et co-acteur Cédric Salin. Bon, ben, genre, c'est, on parle comme ça pendant tout l'épisode et c'est vraiment génial. Et donc, il y a vraiment un truc de... Bah, c'est jouer avec sa voix, c'est vraiment génial. Mais vous le faites, vous, d'ailleurs, ou pas du tout? C'est une vraie question, ça. Parce que vous avez quand même une voix très douce, mais est-ce qu'elle est performée ou pas du tout?
Alors, elle n'est pas performée, mais je crois qu'il faut s'en méfier un peu, non? La voix, quand on s'entend.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, en fait, je pense que à la radio, ouais. Là, on est en train de parler ensemble, moi, je porte un casque pour m'assurer de la qualité de l'enregistrement. Mmh. Quand on est à la radio et qu'on présente une émission, on a un casque pour que le réalisateur en face, il nous parle dans le casque. Ouais. Et je pense que quand on fait du doublage, on peut s'entendre aussi.
Ouais, ouais.
Faut se méfier de ça, parce qu'on peut se complaire là-dedans, non? Ouais. Si on en joue trop, ça s'entend.
Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Il y a, je citerai pas des noms, mais il y a pléthore de podcasts que je peux pas entendre à cause de ça.
Ça fait quoi?
Ou ça fait, moi, c'est la, ce qui me perturbe le plus, c'est la sensualité dans la voix. C'est quand elle est trop performée. Mais
ce serait quoi une voix sensuelle pour vous? Est-ce que vous pourriez faire une voix sensuelle là, par exemple?
Ben, ce serait vraiment quelque chose comme ça, qui serait très presque dans un souffle. Bonjour. Ça, ce serait pour moi, c'est l'enfer. Ça me met des poils de me le faire à moi-même. Mais non, c'est un truc comme ça très... Mais qui est un ton, hein, vous trouvez pas? Je trouve dans les podcasts et tout, c'est vraiment devenu un ton un peu. Mais alors, par contre, moi, je remarque que parfois, je me dis, fais gaffe et tout à comment tu vas parler, parce qu'après, quand tu vas t'écouter, tu vas dire, oh là, je parlais trop vite, et puis je suis trop comme ça, comme ci, et tout. Mais ça m'échappe tout le temps... Je crois pas performer en interview. Après, c'est vrai que si on était à Radio France, dans un studio feutré, et qu'on serait dans une émission de France Culture, peut-être qu'un... je m'écouterais, ouais. Peut-être. Mais là, je sais que, par exemple, je m'écoute pas. Et que je vais m'écouter, je vais dire, oh là là, c'est sûr. Ouais, donc, tout va bien. C'est que j'étais moi-même.
Oui, parce que ce qui est assez magique avec la voix, c'est tout ce qui échappe.
Ouais, exactement.
Presque plus qu'avec l'image.
Ouais.
On peut beaucoup plus donner le change dans une gestuelle ou dans une attitude que vocalement, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais vous écoutez, vous, des fois, ou pas du tout? Est-ce que vous tombez sur vous, ou est-ce que vous vous écoutez même? Ou est-ce que vous détestez?
Je l'ai fait.
Ah, vous êtes écouté parfois?
Bah ouais.
Ouais. Et alors?
C'est très désagréable.
Ouais.
Enfin bon.
Ouais.
Mais ça sera coupé au montage.
Ouais. non, pourquoi? Il y a pas de raison.
Non, c'est très désagréable.
Ouais.
En fait, s'écouter faire... C'est comme, j'imagine, quand on joue, se regarder faire.
Oui, exactement.
Ça va pas, non?
Ouais, ça va pas. C'est marrant parce que c'était à la fois une question et un peu une affirmation. C'est comme, ça va pas, non? Ça va pas de te regarder faire comme ça.
Non, c'est une intuition que j'ai.
Non, c'est vrai. Complètement. Après, on joue pas à juste, je pense, en plus. C'est sûr. Said you won't forget my name. Not today. Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow. Like I change. You could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today. Maybe tomorrow. I'm not afraid to die. Laura Felpin et Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter. Je l'ai bien fait ?
Super.
Super.
Pour votre carte blanche, oui. Vous avez choisi oui. Le texte d'un écrivain
oui.
Qui s'appelait Christian Bobin.
Oui.
Vous en faites la lecture ?
Oui, je peux. Alors, j'ai beaucoup hésité, parce que Christian Bobin, comme c'est absolument super, bah, j'ai beaucoup de textes de Christian Bobin. Mais il y en a un qui me plaît bien, parce qu'il ne nous enterre pas, quoi. Et c'est un texte sur une fleur.
Donc, c'est issu d'un ouvrage
qui s'appelle « La grande vie ». Je ne sais rien des enfers que tu as dû traverser pour arriver devant moi. La pluie bâtit autour de ton visage son monastère de gouttes d'eau. Par beau temps, tu me fixes du rayon de tes yeux, je lis devant la fenêtre, et si pour te voir je lève la tête du livre, je ne sais plus revenir à lui. Une marguerite seule, avec son feu blanc dans l'océan d'un pré, qui s'en soucie ? Je puise dans ta vision les forces nécessaires pour résister au monde. J'ai pensé que nous pouvions maintenant que tout est détruit de la vie ancienne, reprendre l'alphabet de l'éternel. Tu en serais la première lettre. Le ciel repose sur ta tête pâle et lumineuse. Tout ce que j'aime dans cette vie, les nuits d'été, le sommeil des renards, le silence des penseurs, absolument tout repose sur l'étoile blanche de tes pétales. Personne n'a aujourd'hui plus mauvaise réputation qu'une petite fleur. Très humble, douce et ferme marguerite, je salue en toi l'espérance réalisée d'un monde ressuscité, l'entrée en force d'une lumière dans mon âme délivrée. Il est trop fort, Christian. Je le connais pas, mais il me manque tous les jours. Il arrive à dire des choses de la vie, de ce qui nous entoure, et tout est beau, et tout est en place, et tout est OK. Quand on entend Bobin parler de la mort, il n'y a rien qui peut me rassurer plus que Bobin qui parle de la mort, je crois. Parce qu'il dit, plus j'aime cette vie, plus je la regarde, et plus je suis d'accord pour qu'un jour elle me quitte. Et c'est vraiment magnifique. Du coup, je m'accorde à me dire, bon, au lieu de penser à l'inexorable fin, et à te demander comment ça va se passer, et qu'est-ce qui va se passer, ou ce qui se passe rien, c'est horrible et tout, bah, en fait, regarde ce qui se passe autour de toi, et là, tu vas peut-être... Et les mecs comme ça qui arrivent à voir ce qui se passe autour d'eux, ils sont quand même pas nombreux à le dire aussi joliment, quand même. Donc, ça me rassure infiniment. Vous savez, la mort, elle nous cueille, on sait pas trop quand, hein. Et elle viendra comme ça un jour aussi innocemment que ça, que la marguerite, aussi innocemment que ça, c'est sûr. Et c'est Bobin, encore une fois, qui le dit, et qui le dit très bien, ça. C'est, on ne sait pas, on n'a pas de temps défini, quoi. Mais c'est pas tellement le fait de mourir. Je ne suis pas forcément hypochondriaque, je ne suis pas en train de me dire à chaque fois, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir. C'est juste de me dire, ah, donc un jour, je vais perdre ma mère. Après, je vais perdre mon père. Ou l'inverse, je ne sais pas dans quel sens ce sera, pardon, maman, de t'avoir tué en premier. Ah d'accord, donc après, je vais perdre ma sœur, logiquement. Puis après, je vais perdre... Puis je me dis, ah, puis sur le chemin, je vais peut-être en perdre deux ou trois qui sont pas... C'était pas prévu. Et puis je me dis, waouh, comment il faut être armé dans la vie pour ça. Et puis en fait, je crois que quand on arrive quand même... Et ça, c'était dans un poème d'Aragon qui disait, il restera toujours l'eau, la pluie, le vent, car rien ne passe si ce n'est le passant. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on arrive à observer autour tout ce qui se fait sans avoir besoin de notre intervention et tout ce qui est beau et de l'ordre du beau, et que c'est en fait un peu ça, finalement, le petit truc de bonheur qu'on peut grappiller, parfois, c'est une marguerite, c'est un moment court en famille avec sa mère, c'est le vent, c'est voilà. Tout ça, je pense que quand on a capté dans quel endroit on était, peut-être on est un peu plus apaisé, quoi. Enfin, c'est ce que je me souhaite. Et puis, c'est qu'est-ce qui reste aussi, quoi, quand on n'est plus là. C'est-à-dire, j'ai pas l'obsession de ce qui va rester. Mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu ma voisine qui s'appelait Marie-Georges, que j'aimais infiniment. Et c'était ma voisine. C'était pas non plus ma mère, ma tante, ma cousine. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qu'on a aimés, mais qu'on n'a pas aimés comme de la famille, mais qu'on a aimés, et qui sont des femmes célibataires de 70 ans et qui n'ont pas d'enfants et qui ont... Donc là, derrière vous, il y a une boîte pleine de photos de Marie-Georges que j'ai récupérées dans une poubelle parce que... Bah parce que oui, quand on voit un appartement d'une dame célibataire, on fait quoi de ces photos? On fait quoi de sa vie? C'est étrange quand même. Je sais pas, ça me questionne vachement cette histoire de l'existence, quoi. Pas si marrante, la Lolo. Je pense que j'aurais toujours besoin d'être marrante et parce que c'est comme ça que je vis l'existence, en fait, tout simplement. Mais je suis aussi quelqu'un de très profondément angoissé. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai besoin de rigoler. et de profondément consciente, je crois, de plein de trucs qui me aident de notre finitude. Et donc moi, les livres, ça m'aide infiniment, et j'ai un respect pour l'écriture infinie à tel point que je suis toujours très étonnée quand j'ai des gens dans mon entourage ou quand je connais des gens qui ont écrit des livres et dont c'est pas le métier initial. Il y a un truc un peu de vieille conne pour moi qui me dit « écrire un livre, lui ». Alors que pas du tout, il y a des super livres écrits par des gens qui n'ont pas eu la prétention d'être Marguerite Yourcenar, mais en tout cas, c'est un acte qui est pour moi un peu sacré, quoi.
Il y a une séance photo dans cette émission.
Ah oui, c'est vrai. On fait quoi ? C'est vous qui me prenez ou c'est moi qui me prends avec vous ? On fait quoi ?
Alors, normalement, c'est moi qui vous prends en photo.
D'accord.
Voilà.
Okay. Je suis très nulle pour les photos. En général, je donne mon profil comme ça.
Ah oui, là, vous avez tourné un peu la tête. D'accord.
Ah ouais. Oui, lâchez prise.
On sent la pro quand même. Allez-y, prenez-la.
En fait, je me suis fait avoir une fois une collègue de ma mère qui est journaliste. Elle m'avait dit, on va faire une interview pour l'Alsace et puis je vais te prendre en photo. Alors que j'étais chez ma mère un dimanche en pyjama dans mon jardin. Et cette photo a fait le tour d'Internet. C'était la seule photo qui était disponible de moi pendant des années. Et on dirait vraiment une personne en cure de désintox. Vraiment, ça ne marche pas du tout. On se dit, cette personne souffre. Et vraiment, je me suis dit, je ne veux pas que ce soit cette chose-là qui reste. Donc, vous voyez, je me suis quand même maquillée aujourd'hui. Ah, je crois que je louche un peu. Oh non, ça va, je suis mignonne quand même.
Je trouve ça réjouissant que vous disiez « je suis mignonne ».
Oui, je trouve que ça se voit que je suis contente que vous soyez là.
Merci.
Avec plaisir.
Donc ça va, vous ressembler.
Ouais, je me ressemble. Ah oui, c'est moi. Je me vois même un peu gosse là quand même. Avec mes petites joues là, un peu gênées. Non, non, ça me va très bien.
Merci beaucoup, Laura Felpin.
Merci, Rebecca Monzoni. Je vous souhaite une bonne journée.
Laura Felpin est à l'affiche de L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter avec Hakim Jemili, Benjamin Tranier, François Damiens et Clotilde Courau. Le film est en salle le mercredi 23 avril. Laura Felpin est aussi dans Banger sur Netflix et Colocataire dans Bref 2. Koyan Guyane réalise Totémique et c'était avec Gaspard Guy Bourget ce matin. Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulesco prépare l'émission et JB Audibert choisit nos disques, le groupe Biche plus Billie Eilish aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dans un centre culturel italien avec le dessinateur Alfred.